otro es el Ismael Casado de Nazar. Je suis totalement
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour près de 57 minutes d'échange d'un parole aux auditeurs. Dans des jours, le monde célèbre le 15 septembre prochain la Journée internationale de la démocratie. Le choix de la date du 15 septembre pour célébrer cette journée a été effectué par l'Organisation des Nations Unies et correspond à l'adoption en septembre 1997 de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette déclaration pose le principe constitutif d'une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d'un gouvernement démocratique. Après près de trois décennies d'un pouvoir sans partage, la RDC a renoué avec l'expérience du pluralisme politique perdu à la sortie de l'indépendance. Le processus démocratique démarré en 1990 s'est poursuivi avec les élections présidentielles et législatives de 2006 et 2011. Que pensez-vous de l'évolution du processus démocratique en RDC? Nous en parlons avec le professeur Philemon Mwamba Mumunda, docteur en sciences politiques et administratives à l'Université de Kinshasa. J.R. Lungembo coordonne cette émission et la réalise avec Kikimputu et Guma Zangou. Et Ben Kabamba la supervise. Pierrot et la musique pour la présence. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Le débat politique, c'est dans un autre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiokati.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
081-890-6315, 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour les interventions en direct dans cette émission consacrée bien sûr à cette réflexion sur l'évolution du processus démocratique en République démocratique du Congo, comme l'avons dit. Ça marche de la célébration le 15 septembre prochain de la Journée internationale de la démocratie. Honoré Ebengo, qui est à Lubumbashi, est en ligne avec Espérant, ici à Kinshasa. Monsieur, nous faisons le point avec vous sur l'évolution du processus démocratique en RDC. Bien avant le temps d'avoir en ligne notre invité, le professeur Philemon Mwamba Mumunda, qui est docteur en sciences politiques et administratives à l'Université de Kinshasa. Nous sommes avec vous, Honoré, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Ebengo Honoré Alfani, à partir de Lubumbashi.
Voilà, vous avez vu l'évolution du processus démocratique depuis le démarrage du multipartisme, n'est-ce pas, le 24 avril 1990 jusqu'à ce jour. Pour vous, que pensez-vous de l'évolution du processus démocratique dans notre pays?
Vraiment, je vous remercie d'abord de m'intégrer dans ce débat aussi très important. Et je voulais articuler mon intervention en cinq étapes. La gouvernance politique, la gouvernance économique, état des droits, alternance politique et la liberté médiatique. Mais pour bien saisir cette situation, je voulais que nous partions de l'approche historique, ce qui va nous permettre de bien développer le sens. Le vent est venu de la vague née de 1990, après que le président Mobutu ait compris que le monde n'a plus besoin de régimes dictatoriaux ou de régime militaire, mais aussi il faut ajouter et surtout les événements malheureux qui avaient commis son ami président romain. C'est pour se nous rencontrer, mais ça c'est une façon extérieure. Si nous rencontrons chez nous, les conférences nationales, les éditions populaires ont embrassé ce mouvement. On a fait toutes ces organisations en sorte que nous entrons dans une transition démocratique, que nous ayons un gouvernement qui sera un gouvernement issu de la volonté populaire. Par un gouvernement issu de la volonté militaire ou sorte d'une imposition quelconque. Alors, qu'est-ce que voulait la conférence nationale? La conférence nationale voulait que nous ayons un changement radical, c'est-à-dire entre le parti État, d'une part, et aussi la fin mandat de M. Mobutu. S'agissant de parti État, c'est ce que je voulais parler de ce parti État. Donc, comment on s'était rendu compte que dans les institutions de l'État, il y avait l'implication des certains pouvoirs du parti qui s'impliquaient, par exemple, les secrétariats disciplinaires, il y avait aussi une manie pour certains fonctionnements de l'État. Et c'est là, à ce que les gens faire, c'est de prendre conscience à ça. Ça, c'est la première chose. Et cet changement entendu n'a pas eu lieu. Nous sortons, si nous arrivons à 95, 1995, le pays a tenu le fait à partir de l'Est. C'est la rébellion menée par Mosé et ses compagnons. Parole d'honneur avec Mosé, je vais libérer la population congolaise. Mais cette guerre va déstabiliser le pays. Je sais, je fais partie des témoins de la Pacte démocratique et communauté aujourd'hui, qui vise la paix par la démocratie. Nous avions considéré que les gens qui ont mis sous l'armée n'avaient pas un sens de la paix démocratique. Les démocraties ne sont pas la guerre. Les démocraties, ce sont le résultat des virus qui font que les gens se rendent ou se salent au pouvoir. Vous avez parti avec cette guerre en 97, en 98. En 2001, on a connu l'avènement de Kabila. Il est venu au pouvoir. On a essayé de chercher un consensus national qui permettra à ce que le pays fonctionne au moins sous le principe étatique, mais le moins sous le consensus de la population congolaise. Mm-hmm. Et nous sommes trouvés en face d'un dialogue inter-congolais. Ce congolais nous a permis d'avoir un plus 4, un plus 4 qui a dû fonctionner, qui a permis aux gens comme étant européens, les gens comme Azarias et d'autres personnes, de mettre fin à la rébellion et de s'impliquer à dans notre pays. Voici comment les choses sont démarrées. Mmh. Mais malheureusement, heureusement, nous sommes arrivés à cette guerre de rébellion. La situation va nous plonger dans les dialogues avec les Congolais et une formule en plus quatre sera. Malheureusement, le tissu économique restera victime, faute d'un contrôle. En 2006, nous organisons le premier après le lancement démocratique, soit. Puisque avant, il y avait d'autres élections, il ne faut pas oublier ça. En 2006, nous organisons les élections après que le rassemblement populaire soit approuvé. Ces élections ont tenu de façon évitée des contestations. Contestations que non, on ne peut pas organiser les élections dans un seul climat. C'est-à-dire que les gens n'ont pas accepté le résultat qui a été publié par M. Apollinaire Malumal. Mais la situation du pays, un pays qui veut franchement de la guerre, les gens se sont forcés les mains, les gens ont dit que non.
Honoré, s'il vous plaît, si on peut s'écouter, Honoré, pour permettre à ce que nous puissions rester dans d'une manière très concise et permettre à ce que les autres personnes puissent intervenir. Vous voyez que c'est un sujet qui soulève beaucoup qui suscite vraiment un grand débat dans l'opinion. Alors, vous avez tracé vraiment l'approche historique de la marche du pays jusqu'au moment où nous sommes arrivés. Vu toute la situation, les élections que nous avons connues jusqu'à ce moment pour vous, comment vous voyez l'évolution de ce processus démocratique d'une manière brève pour permettre à ce que d'autres auditeurs puissent intervenir?
Oui, d'une manière brève, donc on ne pas aller trop long, que dans notre pays, la démocratie n'a pas vraiment fonctionné jusqu'à présent. Depuis qu'on l'avait lancé jusqu'au fait de... Alors, il y a toujours des ratés, il y a toujours une mauvaise sécurité de gouvernance politique qui s'affiche à ces politiques, il y a toujours des violations des droits de l'homme, il y a l'absence d'un état de droit. Il faut que notre démocratie tienne pas à un état de droit. Le respect des normes est établi, le respect de la Constitution. Et en fait,
Honoré, on vous a suivi, vous avez dit, eu égard à tout ce que vous regardez, hein, vous avez parlé de l'absence de la gouvernance démocratique, vous avez parlé des droits de l'homme, vous avez parlé de la liberté d'expression, et face à tout cela, vous pensez que la démocratie, le processus démarré n'a pas bien fonctionné, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de défis qu'il faut encore relever. Merci de nous avoir appelé de Lubumbashi au Katanga, nous avons ici à Kinshasa Espérant, vous êtes avec nous, bonjour Espérant.
Bonjour Pierrot et la Mengi, je suis Espérant Alamoumé qui vous appelle à partir de Kinshasa.
Vous avez suivi notre ami de Lubumbashi qui pense qu'il y a eu beaucoup de ratés dans l'évolution du processus démocratique, il y a encore des choses qu'il faut faire. Il a parlé de la gouvernance et des droits de l'homme et autres. Votre point de vue par rapport à l'évolution de ce processus démocratique?
Bon, je pense que mon prédécesseur a pleinement raison. Notre démocratie est encore une démocratie très 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 jeune. Dans quel sens? Lorsque nous prenons la définition d'Abraham Lincoln qui définissait la démocratie comme étant le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, cette définition ou cet entendement n'est pas respecté en République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Vous allez voir l'exemple le plus parlant, les élections qui ont été organisées récemment. Ce n'est pas la volonté du peuple qui a été respectée. Dans quel sens? Dans la démocratie, il y a deux aspects qui doivent moderniser la politique, à savoir l'état de droit, qui limite les pouvoirs arbitraires de l'État et aide surtout celui-ci à se constituer et encadrer la vie sociale en proclamant l'unité et la cohérence du système juridique. Et cet état de droit prépare toute forme de séparation de l'ordre public ou juridique et de la vie sociale, ce qui n'est pas réel en République démocratique du Congo. Deuxièmement, l'idée de la souveraineté populaire qui prépare plus directement la venue de la démocratie. Vous allez vous demander, lorsque dans l'Assemblée nationale, les décisions ne sont pas respectées, si elles sont mauvaises, vous allez dire que c'est la majorité qui l'emporte. Bien sûr, nous acceptons, c'est l'idée de la démocratie, c'est la majorité qui a droit. Mais est-ce que c'est que la majorité adopte voix à la volonté du peuple ou de la nation? Parce que la démocratie, quand on parle de la démocratie, on voit la population. Ce n'est pas les intérêts personnels. Il ne faut pas personnifier ou personnaliser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est vraiment déplorable. Je pense pour ma part que la RDC a encore des défis majeurs à relever pour bien vivre la démocratie dans notre pays.
Voilà, merci. Espérons, vous pensez qu'il y a encore des défis qu'il faut relever. Vous avez évoqué la souveraineté, vous avez évoqué le problème de l'intérêt, par exemple des choix au niveau du Parlement. Vous dites qu'il y a la majorité, la démocratie veut que ce soit bien sûr la majorité, mais vous demandez si c'est que la majorité décide, qui rencontre la volonté de la population, mais il y a encore des défis à relever. C'est-à-dire Honoré de Lubumbashi.
Nous savons bien que la démocratie, quand on parle de démocratie, il y a deux sortes de démocratie. Nous avons la démocratie directe et la démocratie indirecte ou représentative. À l'ORDC, nous vivons la démocratie indirecte ou représentative, c'est-à-dire le peuple est représenté au niveau de l'Assemblée nationale par les députés nationaux. Et ces députés-là doivent vraiment, c'est vraiment un défi que je lance aussi à nos députés, ils doivent vraiment donner les doléances qu'ils reçoivent de la population.
De la population. Merci.
Je suis précédemment sur Radio Okapi que les députés nationaux n'ont pas eu l'occasion d'aller dans leur base. Mais comment ces députés-là doivent défendre l'intérêt national?
S'ils ne sont pas allés dans leur base parlementaire,
là où ils se sont fait élus, ils peuvent prendre les doléances de la population et les transmettre à l'Assemblée nationale.
Merci.
Et l'Assemblée nationale, à son tour, ne doit pas rejeter tout. Il ne doit pas s'inscrire en faux. Quand elle veut s'inscrire en faux, mais elle doit apprendre à juger chaque chose à sa juste valeur.
Merci beaucoup, Espérant.
Pour renforcer notre démocratie.
Merci, Espérant. Merci, Espérant, de ce point de vue. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur la ligne. On ne saura pas s'éterniser, mais vous avez insisté pour qu'il y ait le respect des principes qui sont édictés dans le processus démocratique. Il y a des défis qu'il faut relever. Nous avons déjà notre invité qui est en ligne, le professeur Philemon Mamba Mondunda, avec qui nous allons essayer d'analyser les points de vue des auditeurs, leur entendement par rapport à l'évolution du processus démocratique. Maître Machaga, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Avec des exemples concrets, vous avez suivi les amis qui disent qu'il y a eu beaucoup de ratés sur l'évolution du processus démocratique. Concrètement, pour vous, quels sont les points sur lesquels on peut dire aujourd'hui que le processus démocratique a connu des ratés en RDC? Maître Machaka, vous êtes avec nous? Voilà, on a un petit souci avec Maître Machaka qui s'est registré sur sa ligne. C'est là nous donne l'occasion de pouvoir donner la parole au professeur Philemon Mamba. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous faisons un point avec les auditeurs de Radio Capi sur l'évolution du processus démocratique en RDC. Ça marche bien sûr de la journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre de chaque année depuis 1997. Bien avant, peut-être qu'on revienne au point de vue, au propos des auditeurs. D'une manière un peu brève, comment l'auditeur peut-il comprendre le concept de démocratie d'une manière claire et brève? Parce qu'on parle beaucoup de démocratie, peut-être qu'on peut permettre à l'auditeur de comprendre d'une manière brève et claire ce concept de démocratie avant qu'on puisse aller plus loin.
Merci beaucoup pour la question et me faire participer à un dialogue citoyen organisé par Radio Okapi. En ce qui concerne le concept de démocratie, je prendrai la formule lapidaire de Lincoln, qui est simple et qui est reprise dans tous les manuels de sciences politiques. C'est la voix du peuple, un exercice du pouvoir pour le peuple, et par le peuple. Mais cet exercice du pouvoir pour le peuple et par le peuple ne peut pas se faire directement comme ça se faisait dans les cités antiques en Grèce. Non, aujourd'hui, c'est à travers les représentants des peuples que s'exerce la démocratie. Or, dans notre pays, depuis l'indépendance jusqu'aux dernières élections que nous avons connues, nous avons basculé tantôt vers la démocratie, tantôt vers des dictatures parfois très atroces et inqualifiables par certains auteurs pour le continent africain. Ce qui fait que vous appelez bien un processus démocratique. Nous avons commencé quelque chose, nous cheminons vers autre chose différente de ce que nous connaissions. Ce que nous connaissions, c'était un pouvoir usurpé à travers les armes. Mais depuis 2006, nous avons commencé cet exercice de choix de nos représentants. Mais ce n'est pas du tout un jeu à des gens qui ont pris des armes pendant des années et de leur inculquer aujourd'hui une vision démocratique. Ça s'apprend. Mais qui doivent être le maître de ces jeux politiques sur le plan de la démocratie dans notre pays? C'est encore une fois le peuple. Le peuple se plaint que les élections n'ont pas été transparentes, démocratiques. Mais en retour, qu'est-ce que ce peuple a fait? La Constitution lui reconnaît qu'un certain nombre de signatures, de pétitions par exemple, peuvent faire annuler une loi votée par le Parlement. Mais est-ce qu'on exerce ce droit? Et c'est là que je reviens à une question fondamentale. Qui font la vie démocratique d'un pays? Ce sont les partis politiques. Mais est-ce que les partis politiques dans notre pays sont d'abord eux-mêmes démocratiques pour prétendre imposer la démocratie au reste du pays?
Voilà.
Ça,
professeur,
c'est le fond du dossier.
Voilà. Mais pour revenir maintenant, parce qu'on a eu des élections en 2006, en 2011, quels sont les piliers aujourd'hui sur lesquels on peut se fonder pour dire qu'il y a un régime démocratique? Les points sur lesquels aujourd'hui on peut faire un jugement pour dire que voilà, ici on a une effectivité de la démocratie, ici il n'y a pas de démocratie. Quels sont les piliers sur lesquels on peut se fonder?
Les grands piliers pour ce qui est de la démocratie reste la liberté. Et cette liberté, c'est dans tous les champs de la vie en société. Que ce soit dans les champs politiques, que ce soit dans les champs économiques, social ou religieux. Mais est-ce que, en regardant comment les choses se passent dans notre pays, avons-nous la liberté de nous exprimer dans les différents champs de la société? Je prends un exemple banal. Sous la présidence de Tamere en 2000, au niveau du Parlement, il a été voté un moratoire de 6 mois sur la question de la nationalité. Mais ça fait plus de 5 ans. Qui en parle? Est-ce que la population congolaise a signé une pétition pour obliger les parlementaires à inscrire cette question à l'ordre du jour et en débattre? Non. On ne peut pas toujours dire que les politiciens ne jouent pas le jeu démocratique quand nous-mêmes, la population, nous ne la jouons pas. Donc, la responsabilité est partagée. En prenant la question de la liberté, par exemple, vous avez des médias qui sont fermés, soi-disant, parce que étiquetés de l'opposition, mais les médias du pouvoir, ou étiquetés du pouvoir, sont parfois pires que ce qui est reproché aux médias de l'opposition. Donc, en prenant juste le critère de la liberté dans tous les champs de la société congolaise, nous disons qu'il y a encore des efforts à fournir pour qu'on parle véritablement de la démocratie. Et la démocratie s'exprime par la base. Mais depuis 2006, les élections municipales, les élections locales n'ont jamais été organisées. Elles ont été renvoyées en 2014, donc après les élections au niveau national. Mais quand est-ce que la population, c'est-à-dire celle de la base, pourra élire ses propres dirigeants? C'est là la possibilité de contrôler directement. Parce qu'au niveau national, ça pose un problème, dont le député a été déjà élu. Mais au niveau municipal, au niveau local, il y a la possibilité de contrôler ces élus à ce niveau. Or, ces élections ne sont pas organisées. Nous avons des bourgmestres, nous avons des
conseillers qui
ne rendent compte qu'à ceux qui les ont nommés. Mm-hmm. Donc la population a la possibilité, nulle, d'exercer un pouvoir sur eux ou un contrôle sur eux. Mm-hmm. C'est ça qui force le jeu démocratique dans notre pays.
Voilà, professeur, on vous garde en ligne. Il y a Théophile qui est à Kananga, Credo est ici à Kinshasa. Monsieur, on va vous accorder la parole. 081-800-90-63-15, c'est le numéro d'appel pour donner votre point de vue sur l'évolution, comme nous l'avons dit, du processus démocratique en RDC. Nous en parlons avec le professeur Philemon Mwamba Munda, qui est docteur en sciences politiques à l'université de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Théophile, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Bonjour, bonjour professeur.
Vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, quels sont les défis qui restent à relever pour l'effectivité de la démocratie dans notre pays?
En tout cas, il y a plusieurs défis à relever. Lorsque je me réfère à la définition que vient de donner le professeur, la définition de la démocratie, mm-hmm. pouvoir ou la volonté du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je dis que dans notre pays depuis 60, comme il le dit, la démocratie a évolué en dents de scie. Puisqu'il a expliqué le texte, je crois que c'est une méthode échelonnée de l'évolution de la mentalité de l'homme pour l'application réelle, véritable de la liberté. Qu'est-ce que j'ai constaté personnellement? Il y a un problème au niveau des hommes. Les hommes sont dans deux camps. Il y a ceux qui se considèrent comme étant le meneur du peuple et le peuple. Le meneur du peuple veut toujours que leur opinion, leur liberté soit considérée comme une lettre de l'évangile. Alors que le peuple qui est détenteur du pouvoir n'a rien à dire. Mais le détenteur du pouvoir dit toujours notre population, notre peuple. Notre population est notre peuple lorsque l'opinion de cette population, de ce peuple, ne rencontre pas leur profil, leur intérêt. Je veux dire ceci. Nous avons vécu la démocratie appliquée par le Laurent Désiré Kabila en 1998, lors de l'élection des dirigeants, des gouverneurs et les maîtres de la ville. Qu'est-ce que nous avons constaté? Le peuple s'alignait au vu et au su de tout le monde pour choisir leurs dirigeants. Mais les actuels, pas les actuels, je vais m'en excuser. Tous ceux qui se considèrent comme étant politiciens, ne trouvant pas leur compte dans ce système-là, l'avaient combattu. Or, c'était le peuple qui s'exprimait ouvertement et au grand jour. Maintenant, la démocratie appliquée dans la voie des urnes, c'est une bonne démocratie brésilienne sur un système occidental. Ça cache la vérité. Pourquoi? Parce que il y a la corruption qui intervient. Il y a les cadeaux qui se donnent par-ci par-là. Ceux qui n'ont pas de possibilités, alors qu'ils ont le consentement de la population de leur milieu, mm-hmm. ne trouvent pas la possibilité de se faire élire, de se faire représentant de ce peuple. C'est pourquoi je dis que le problème se situe au niveau du système, de l'application du système. Mm-hmm. Le professeur vient d'évoquer le problème des médias fermés, qu'on appelle les médias de l'opposition. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je ne peux pas accepter que les médias soient fermés. Mais ils sont faits en fait. Les journalistes, certains journalistes n'utilisent pas l'éthique déontologique de leur métier. Mm-hmm. Ils considèrent la liberté, ce qu'on appelle liberté de démocratique à libertinage. Donc, on n'a jamais vécu ailleurs un président de la République, un ministre, un gouverneur, usé par la personne. Jamais du tout. Et si je reviens un peu sur une loi, parce que nous disons que nos députés sont des législateurs, bien sûr. On parle de la télévision
de
liberté de presse. C'est une bonne chose. Donc, ça fait que la plupart des journalistes ne résistent pas à ce contenu. Ils ont leur opinion. Ils ont leur tendance politique qu'ils exposent dans la presse.
Merci, Théophile, oui, voilà.
La presse, c'est un organe, un cinquième pouvoir qui doit rester au milieu du village.
Merci, Théophile. Si on pourrait tenir de votre point de vue, puis le problème, c'est la mauvaise application du système, c'est ce que nous connaissons. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à ce que la volonté de la population qui est exprimée de l'agir ne soit celle qui se reflète réellement, que ce soit dans la désignation de représentants. Et vous vous inquiétez, mais du moins aussi, vous revenez à ce qui concerne le média, qu'il y en a qui exploitent mal cette liberté de la presse pour exposer plus ses opinions. Ok, le traitement de l'information, mais alors il y a beaucoup de forces qu'il faudrait fournir. Et donc vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres. Nous parlons encore de ces processus démocratiques à RDC. Comment vous voyez son évolution et les défis qu'il faudrait aujourd'hui relever?
Oui, je suivi avec attention les interventions de mes prédécesseurs. Mais je veux quand même signaler que la démocratie en RDC est en phase de sa genèse. Alors, il y a beaucoup de difficultés qui sont rattachées à cette démocratie. Et si nous pouvons noter certains cas de violation des droits de l'homme, tel est le cas de la mort de Chebeya et de son chauffeur Bazana, il y a la violation de la liberté de la presse, il y a le cas de la RLTV qui est fermée et pas un peu ouvert. Il y a le canal futur jusqu'aujourd'hui, on ne sait plus à quel niveau on se trouve. Bon, on se demande si on est vraiment dans un pays démocratique, ou soit il n'y a pas de volonté de démocratiser les pays. Prenons l'exemple pratique maintenant pour l'instant, il y a les élections à la base. Si vous voulez maintenant une utopie, on ne sait pas, ça va se réaliser ou pas. Alors, il y a beaucoup de questions que la population se pose. Les députés que nous votons, les élus que nous votons, doivent être redevables à la population. Cela n'est pas à l'ordre du jour. Quand aujourd'hui les députés, ils s'en vont au conflit, mais il y a toutes les gouvernances participatives avec la population. Donc toutes ces histoires font que la démocratie en RDC ne soit pas en cours avec effectivité. Donc c'est sans notre intervention à la radio. Mais nous devons aussi noter que dans le pays en voie de développement, dans le pays pauvre, il y a un coup très fort difficulté de faire avancer la démocratie. Du fait que la population vit dans la misère, et cela ne permet pas à la population de savoir réellement ce qu'ils doivent faire. Et ils deviennent ignorants et ne savent pas comment remonter la pente. Donc c'est ça notre intervention.
Merci, Credo. Beaucoup de difficultés, vous avez évoqué des cas de violation des droits de l'homme, la liberté de la presse, il n'y a pas de gouvernance participative, l'inquiétude par rapport aux élections provinciales ou les élections locales, comme l'a dit notre invité, ce qui peut rapprocher plus les gouvernants de gouverner. Merci beaucoup. Et la conséquence de tout cela, c'est l'ignorance aussi. Antoine, vous êtes en Bouge-du-Mal au Kassai Oriental. Bonjour Antoine.
Bonjour, c'est le journaliste, je m'appelle Antoine Oké, la OAS.
Antoine, on a des petits soucis avec votre ligne téléphonique, vous sortez entrecoupé. Peut-être le temps que vous puissiez un peu vous repositionner. Nous revenons au professeur. On a suivi toutes ces inquiétudes. Mais professeur, on est parti du parti unique aujourd'hui à plus de 400 partis politiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut concevoir une démocratie et l'adapter à chaque peuple, à chaque culture, pour que la démocratie soit vraiment mieux comprise au niveau de chaque peuple, au niveau de chaque culture? Par exemple, le cas de la RDC, vous voyez, l'auditeur de Canada qui s'inquiète, il a vu du temps déroger Laurent Désiré Kabila, les maires de villes, les bourgmestres qui ont été désignés d'une manière populaire dans un stade, et les gens ont pu avoir des gens qui les ont choisis, et même au vu aussi de tout le monde. Et aujourd'hui, quand on est allé dans les urnes, les gens s'inquiètent de ceux qui ont été élus. Faudrait-il aujourd'hui adapter la démocratie pour qu'elle marche avec la culture de chaque peuple, professeur? Professeur Philemon, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne du professeur. Professeur,
Village planétaire.
Nous tous, nous sommes membres d'un même village parce que hier, pour appeler les États-Unis, il fallait dépenser peut-être $50 par minute. Aujourd'hui, c'est en termes d'essence que ça se fait.
Mm-hmm.
Donc, nous avons tous accès à l'information.
Mm-hmm.
Il y a autant de Congolais qui sont allés faire des études dans les grandes universités du monde et qui y enseignent. À titre exemplatif, je citerai Edithia Mbokolo, par exemple, qui a été directeur des études à l'école de haute études en sciences sociales à Paris,
mm-hmm.
où sont formés les meilleurs du monde, et il a été directeur au même rang Saint-Pierre Bourdieu, qui est considéré comme le grand sociologue de ce 20e siècle signifiant et du début du 21e siècle. Donc, on ne peut pas toujours invoquer l'exceptionnalité africaine ou congolaise en ce qui concerne la gestion d'un État ou la simple gestion à travers toutes les organisations que l'on peut mettre en place par un peuple. Nous sommes peuple comme les autres peuples et nous avons droit à ce que les autres ont aussi droit. Parce que au même moment qu'on cherche à avoir une exception congolaise, le Rwanda à côté, qui nous fait voir de toutes les couleurs aujourd'hui, était considéré hier comme un petit pays. Et certains Congolais disent, on ne sait même pas écrire le nom du Rwanda si on ne le remet pas au Congo. Mais avec un leader qui a eu une vision pour son pays, il met le Grand Congo en difficulté aujourd'hui. Et nous devons nous plier devant les dictats du Rwanda. Donc, la question qui se pose, c'est quel est le leadership qui organise la gestion de la cité? Et quelle est la vision de ce leadership? Si la vision est négative, la gestion du pays sera négative. Si la vision est positive, elle sera positive. Nous avons les diamants. Donc, la NIBA est en faillite, mais entre-temps, il y a des individus qui se sont organisés pour continuer à exploiter les diamants de la NIBA. Mais le Botswana, qui n'est pas au même rang en ce qui concerne les réserves que le Congo, est aujourd'hui un des grands exportateurs du diamant et le pays est en train de progresser au niveau du PIB. Donc, c'est une question de gestion. Nous sommes un peuple comme les autres, nous ne sommes pas l'exception.
Mm-hmm.
Mais pourquoi ça ne marche pas chez nous? C'est parce que tout est personnalisé. Comme qui dirait certains, la constitution, par exemple, est taillée à la mesure de celui qui dirige et de celui qui a dirigé, qui a décidé de la mettre en place. Le jour où il grossit, on grossit la constitution. Le jour où il diminue, on diminue la constitution. C'est ça notre problème. Dans moins de 10 ans, on a déjà modifié la constitution. Mais celle des États-Unis n'a été modifiée qu'une vingtaine de fois et on n'a jamais touché à la substance. Donc, c'est là tout le problème de la conception du pouvoir.
Mmh.
Être au pouvoir, c'est un service pour le peuple. Mais aujourd'hui, être au pouvoir, ça devient comme une profession et on doit mourir au pouvoir. Non, c'est ça qui nous empêche d'aller vers de l'avant.
Et professeur, vous avez dit que le travail de l'éducation, de la formation de la population pour l'intériorisation de la démocratie, des mécanismes, doit commencer au niveau des partis politiques. Mais quand on regarde les partis politiques, la manière dont les partis sont fondés, je donne un exemple aujourd'hui, si quelqu'un de Tikrit fonde son parti, vous verrez tout droit son premier voyage, il va aller à Tikrit. Si celui, par exemple, du Kassai fonde son parti, son premier voyage, il va au Kassai, on voit déjà la connotation au niveau des partis politiques et pose problème. Mais alors, où faudrait aujourd'hui, par quel mécanisme faudrait-il commencer pour permettre à la population de s'approprier ce mécanisme de la démocratie, ce qui va leur permettre de sortir de l'ignorance, peut-être pousser l'homme politique à pouvoir accepter les règles et transformer alors la société.
Les règles ne peuvent être transformées que si le peuple lui-même se prend en charge. Comme le disait Laurent Désiré Kabila, même si je ne partage pas un certain nombre de ce point de vue, mais je pense que sans la prise en conscience de la population de son véritable pouvoir quant au choix de ceux qui doivent diriger la cité, nous n'en sortirons pas. Voilà pourquoi ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont peur des élections municipales et locales. Parce que ça, les résultats sont publiés à la base. Il ne faudra pas que ça soit amené au niveau des centres de manipulation à Kinshasa pour donner les résultats qui ne reflètent pas la réalité.
Donc, si on organise les élections municipales, locales, et qu'on sanctionne tous ces vautours qui viennent juste en politique pour se remplir les poches et ne pas s'occuper de la population. On venait de le dire tout à l'heure, pendant les vacances parlementaires, très peu de députés sont rentrés dans les RTS. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils se disent qu'ils n'ont plus de compte à rendre à ceux qui les ont élus hier. Mais si demain, ils savent qu'ils seront sanctionnés et que si on manipule les résultats, celui qui a été proclamé par la manipulation ne pourra pas exercer son pouvoir localement. Je pense que ça va changer la mentalité de ceux qui nous dirigent et ils comprendront qu'on n'est plus à l'âge de la pierre taillée où il y avait quelques illuminés pour décider sur le sort de la population et que la population aujourd'hui peut elle-même se prendre en charge. Et pour cela, il faudra que la population utilise parfois même la violence parce que elle est violentée chaque jour.
Oui, professeur, mais quand vous parlez de la violence,
mettre en difficulté, c'est que la violence, quand
vont
demain pour aller faire des tournées de mascarade dans l'air, quoi.
Oui, mais quand vous parlez de la violence,
c'est que la population élise les personnes qu'elle connaît.
Oui, mais professeur,
du sud du coin, mais tout celui qui habite les coins et qui a un intérêt à ce que le coin aille de l'avant. Je pense que c'est à celui-là qu'il faut donner un mandat pour vous représenter en direction des affaires de la collectivité.
Voilà. C'est la communauté.
De cette manière-là, on peut aller de l'avant. Mm-hmm. C'est qu'une motive. Pourquoi les gens ne rentrent que dans leur village? C'est parce que tous les partis politiques, est-ce que nous avons 400 idéologies au niveau de la politique pour qu'on ait 400 partis politiques? Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui que les PPRD qui se réclament des l'idéologie de la social-démocratie. L'IDPES qui se réclame de l'idéologie de la social-démocratie ne se mettent pas ensemble pour avoir un projet commun de société pour diriger le pays pour le bien de l'intérêt. C'est parce que même les partis politiques ont été personnalisés et personnifiés et chacun parle pour lui pensant que c'est lui. Bien sûr, la terre.
Oui, professeur, on va écouter. Voilà.
Notre démocratie.
Voilà, on va écouter d'autres auditeurs, mais vous avez évoqué le terme violence pour dire que la population doit se prendre en charge, mais la conception du mot violence risque peut-être d'induire les auditeurs en
erreur. Je ne parle pas de la violence pour tuer qui que ce soit, mais il faut chercher ceux qui ne sont pas dignes de nous diriger quand ils viennent nous tenir un discours, par exemple, séparatiste, en disant que nous, il faut voter seulement les fils du coin, et ne pas celui qui ne parle de chez nous, mais qui est installé chez nous.
Voilà,
non,
je suis
et c'est le discours-là qu'il faut bannir, et ce genre de personnes, il faut qu'on le sache et qu'on ne participe pas à leur meeting, qu'ils utilisent comme caution politique.
Voilà. Merci Simon, vous êtes à Matadi, Arsène et Tatikuit, on va vous accorder la parole. Nous faisons le point sur l'évolution du processus démocratique. Vous avez suivi le point de vue du professeur qui pense que les problèmes résident d'abord dans cette conception même personnelle de la politique, où beaucoup de gens aujourd'hui ne pensent pas que c'est un mandat, il faut rendre compte. On pense qu'on va dans la politique pour ses propres intérêts et on se retrouve en difficulté. Toutes ces questions, tous ces points de vue dans cette émission consacrée bien sûr à la Journée internationale de la démocratie.
C'est parce que Radio Capuine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. A vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Nous avons Arsène qui est en public. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous avez suivi les uns et les autres. Quels sont aujourd'hui les défis, parce qu'on tend vers la dernière partie de l'émission, quels sont les défis aujourd'hui à relever pour asseoir la démocratie dans notre pays?
Ok. Je vous remercie d'abord de m'avoir accordé la parole. Le dernier défi qu'on a à relever dans ce pays, après avoir écouté tout le monde, le dernier défi, c'est la définition même qu'il faut intérioriser dans la mentalité congolaise. Et la démocratie est devenue une ambiguïté qu'on ne sait pas facilement faire comprendre à la population pour que la population retrouve ses droits. Les hommes politiques, les acteurs politiques ont profité de ce mot pour essayer un peu de faire quoi, en quelque sorte, de mater la population. Comment les acteurs politiques ont maté la population? Ils ont maté la population par ce que moi j'ai tout le temps appelé le djalélo. Le djalélo, c'est quoi exactement? Le djalélo, c'est essayer un peu de faire croire aux gens que ceux qui sont là ont une certaine spécialité et qu'ils comprennent mieux, qu'ils vont faire mieux. Pourtant, la réalité est dans le négatif. Moi, je dirais ceci. Nous devons apprendre à la population ce que c'est la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté de travail, la liberté dans tout ce qu'il y a comme domaine dans la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, juste parce qu'ils ont dit, écoutez, je ne suis pas avec vous, je ne partage pas la même idéologie, ils se retrouvent en prison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme le professeur le disait, la violence. On essaie de pousser la population par une certaine violence. Regardez à ce qui s'est passé pendant les élections. On peut voir des chars de combat, des octobles nés, c'était presque partout, et même à l'intérieur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en guerre, ces chars, ces militaires expérimentés, ne se retrouvent pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. C'est quelque chose qui est quelque part, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mensonge défini maintenant comme une science qu'on appelle la politique. La politique, ce n'est pas le mensonge. La politique, c'est la science de bien gouverner, de bien conduire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un leadership. Moi, j'ai toujours regretté la mort de Lumumba parce que je me suis toujours dit que Lumumba, c'est le Congo, c'est Lumumba. Il est monté très haut. Il a vu tout. Mais ceux qui étaient avec n'ont pas vu, ils sont restés comme ça après avoir assassiné celui qui a vu tout. Ils sont restés dans la forêt sans se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, à peine, je dirais, écoutez peuple congolais, le temps est venu de ne plus avoir peur de ces chars qui sont en train de circuler contre vous. Le temps est venu de voir tout droit. Qui est leader? Qui peut nous conduire derrière l'idéologie de Lumumba et derrière la pensée de Lumumba? Voilà ce que j'aimerais dire.
Merci Arsène. Vous pensez qu'il faut que les gens puissent prendre conscience? Mais un mot-clé que j'ai retenu dans votre propos, c'est le mensonge. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas bâtir la démocratie avec le mensonge. Et aujourd'hui, utiliser la démocratie comme un tremplin pour lequel on a le pouvoir, alors tout de suite on oublie, on commence à faire... pour soi, pour son ventre et pour son intérêt. Merci beaucoup, Arsène. Simon, vous êtes à Matadi, au Bas-Congo. Bonjour.
Bonjour. Eh bien, c'est Simon Tiloulou, le coordinateur provincial adjoint de la nouvelle société civile. En fait, la lecture que je vais bientôt faire, c'est sur l'ensemble d'observations que la nouvelle société civile du Bas-Congo a déjà fait. En fait, ce qui est plus important, on dirait, les Congolais nous donnent l'impression de ne pas encore arriver à maîtriser ces paramètres qu'on appelle démocratie. Et ceci se manifeste sur beaucoup de faits, parce que lorsque les autorités ou nous-mêmes enseignants, nous parlons de la démocratie aux enfants, mais sur le plan pratique, nous faisons autre chose. Il vous souviendra, messieurs les journalistes, qu'en 2006, il y a eu des élections. Il y a eu des provinces où l'opposition ou la minorité avait remporté des élections parlementaires. Et c'est donc on devait avoir un gouverneur ou un président de l'Assemblée de cette obédience. Parce que nous, la démocratie aussi, c'est la lutte contre les antivaleurs. Mais nous avons vu accidentellement, curieusement, à travers la face du monde qui nous ont regardé et en train de se moquer de nous, vraiment là où l'opposition est majoritaire dans ces assemblées, le gouverneur a été élu de l'autre côté. Ça, ce sont des signes qui signifient qu'il y a encore des antivaleurs à déraciner. Alors, pour les solutions, premièrement, il va falloir que le président de la République, par exemple, suive surtout ces émissions-là que la population appelle le Parlement. Les émissions qui font parler à téléphone ouvert les Congolais profonds, celui qui est resté au village, celui qui est resté à Kasumbalesa, ce que lui dit, c'est quoi? Si le président de la République commencera à suivre ces émissions, nous disons par exemple parole aux auditeurs, dialogue entre Congolais, parlons-en des top Congo. Ces émissions-là, c'est les Congolais qui parlent. Et une fois le président pouvoir voir un aperçu de ces émissions-là, il saura la vraie volonté et l'orientation de la population. Parce que ceux qui vont nous représenter, certains ont l'impression de gagner de l'argent par ces pouvoirs que nous leur donnons. Ce qui fait que, au lieu de dire au chef la vraie vérité pour que le chef puisse orienter ses actions, il pouvait faire trouver une solution à la population pour que la population se réjouisse. Mais, ils cherchent les petites choses qu'ils arrivent. Monsieur le journaliste, aussi, il faut que la majorité et la minorité cessent de se regarder comme les loups et l'agneau. Mmh. Il va falloir que c'est la majorité et la minorité, le pouvoir et l'opposition, convergent vers le bien-être de la population. Lorsque l'opposition peut faire une marche, on voit l'opportunité par rapport à la démocratie. Est-ce qu'ils ont les droits? On leur laisse, on les encadre. Lorsque la majorité aussi organise une marche qui pouvait pousser, faire pression à X ou Y, à la communauté internationale ou à une volonté manifestement illégale, on les fait. Et nous pensons que c'est ça.
Dans ces conditions, on peut. Voilà, merci Simon. Dans ces conditions, on peut arriver à atteindre quand même un niveau, mais on insiste, vous avez beaucoup insisté sur l'écoute, il faudrait qu'au niveau du pouvoir public, par exemple, vous avez donné l'exemple du chef de l'État, si on peut avoir le temps d'écouter des émissions interactives pour découvrir quelle est la vraie orientation que la population voudrait qu'on donne, plutôt qu'écouter des gens qui ont eu le mandat, mais qui, malheureusement, font voir que les choses marchent pas mal, que ça ne marche pas. Merci beaucoup de ce point de vue de Matadi dans la province de Bas-Congo. À Kalemie, c'est Adrien qui est sur les antennes. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour Monsieur JR.
C'est Pierrot et la Mégie, Adrien, nous sommes avec vous, votre point de vue,
oui,
pour vous écouter.
Merci, merci. Merci Pierrot. Moi je pense que d'abord, le plein droit de dire que le Congo il y a la démocratie. C'est vrai que moi je m'aperçois quand j'échange avec des grandes personnes, ils disent que dans l'ancien temps, la démocratie n'avait pas existé. En tout cas, depuis Monsieur Pierrot, personne n'a élu si ce n'est pas avant 2006. Et s'il y avait des élections, M. Pierrot, est-ce que ces élections étaient libres et transparentes? Nous avions vu le référendum, nous avions vu le cadre de l'époque que nous avons aujourd'hui. Je pense pas qu'il faut dire qu'il n'y a pas quand même la démocratie. C'est vrai que nous pouvons accepter que la démocratie est encore jeune. Et la démocratie ne se fait pas en un clin d'œil. Donc c'est pas l'effort de tout Congolais qu'il faut construire la démocratie. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition est libre de tout dire. Nous voyons les gens qui passent à la télévision, dire tout ce qu'ils voient comme erreur. Nous avons des ONG de droits de l'homme qui reprochent n'importe quoi aux autorités et sans limite. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que ça, c'est vraiment la liberté de l'expression? Je pense que nous devons quand même accepter que la démocratie existe et qu'elle est encore jeune. Et il faut le fond de tout le monde, et de l'opposition, et de la majorité, et de la société civile, pour la faire marcher.
Voilà, Adrien, d'ailleurs, ce que vous dites, c'est ce que les autres ont dit. Il n'y a personne qui a nié en bloc qu'il n'y a pas de démocratie. Le point de vue, si je peux les résumer, partant de Honoré, Maître Machado, Espérant, tout le monde a dit qu'il y a la démocratie, mais qu'il y a eu des ratés. Mais il y a beaucoup de défis qu'il faut relever pour vraiment arriver à l'effectivité. C'est pourquoi nous avons parlé de juste du processus. Même le professeur l'a dit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut relever pour qu'on puisse vivre vraiment l'effectivité de cette démocratie.
Oui.
C'est presque le point de vue. Tout le point de vue, on convergeait vers cette vision de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et des défis qu'il faut relever. On va écouter Justin qui est à Butembo, je pense bien notre dernier auditeur, pour revenir au professeur pour commenter et conclure cette émission. Justin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Butembo dans la province du Nord Kivu. On vous écoute, Justin.
Ça va. C'est que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple. C'est le Ibrahim Lincoln qui est américain. Alors, par rapport à la situation actuelle, moi je dirais que le monde pas très mal. C'est vrai que la démocratie n'est pas appréciée telle qu'elle doit être.
On a aussi souci avec vous, Gécéan. Votre ligne téléphonique nous pose assez de soucis. Vous avez dit qui est la démocratie de Bordeaux. Vous êtes revenu sur la décision, mais malheureusement, la définition, mais malheureusement, on n'a pas pu suivre votre dernier propos hein, par rapport à ce que vous pensez de cela en RDC. Peut-être qu'on peut avoir un dernier auditeur qui peut conclure cette émission au nom des auditeurs. Nous allons revenir au professeur pour la dernière analyse ainsi que la conclusion. 081-890-6315, c'est pour les derniers auditeurs, je crois bien, qui est avec nous déjà sur les antennes, c'est Saint-Jodo qui nous appelle de Lubumbashi. Monsieur, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, Saint-Jodo, vous êtes avec nous, bonjour.
Allô, bonjour, M. Perrault.
Vous avez juste une minute hein, pour votre point de vue par rapport à l'évolution du procès de Mokassin à RDC.
Oui, merci, M. Perrault. C'est Saint-Jodo depuis Lubumbashi. J'ai entendu parler des mes précédents auditeurs concernant la démocratie dans la République démocratique du Congo. En ce qui concerne cette démocratie, c'est quoi? Parce que la démocratie ici au Congo existe. Comme les autres l'ont vu, c'est vraiment en miniature. C'est encore plus jeune. Nous avons organisé les premières élections. C'était bien parti, bien qu'il y avait des constations. La deuxième fois, nous avons encore organisé les élections. Et bien sûr, les troubles ne manquent pas. Parce qu'il y a deux partis, il y a l'opposition et la partie quoi, les partis majorité.
Voilà.
Oui, à ce qui concerne tout cela, je peux résumer en deux mots. C'est ce que mes prédécesseurs l'ont dit. La démocratie, c'est vraiment le pouvoir du peuple et pour le peuple. On l'a déjà défini, j'essaie de me répéter. À ceux-là qui disent non, la démocratie n'existe pas ici au Congo. C'est faux, là, c'est faux. C'est encore en miniature.
Merci. Merci, Sanjido. Vous êtes à Lubumbashi. Nous revenons à vous, professeur Philemon Mamba. On a suivi les uns et les autres. Nous allons conclure cette émission, mais avec deux préoccupations. D'abord, c'est le rôle de la société civile dans la construction de cette démocratie, mais aussi cette question, ce terme jeune démocratie, faudrait-il combien d'années pour qu'enfin cette démocratie puisse grandir? Et les gens aussi se cachent derrière là, ce terme jeune démocratie pour ne jamais faire des efforts pour qu'on puisse avoir une vieille démocratie, professeur.
Vous venez vous-même de conclure et de bien répondre par rapport à la question que vous posez. Il n'y a pas d'année fixée pour atteindre, permettez-moi d'utiliser le terme connu au Congo, le point d'achèvement pour la démocratie. La démocratie, c'est un état d'esprit. Est-ce que ceux qui ont choisi d'être leaders ont un état d'esprit démocratique? Est-ce que le citoyen congolais a un état démocratique? Est-ce qu'on est disposé à accepter la contradiction? Est-ce qu'on est prêt à accepter le point de vue de l'autre sans le brutaliser, sans l'envoyer au cachot, sans le suspendre? C'est là le fonctionnement principal de savoir qu'est-ce que nous voulons. On peut atteindre une démocratie comme en Occident si on le veut dans 5 ans. Les élections qui viennent de se passer, pour quoi on a tenté de brimer les autres, de sortir les chars, comme un des auditeurs l'a stigmatisé tout à l'heure, si on est tout sûr que les choses se passent correctement. Si on sort les chars, si on sort les militaires, c'est que quelque part on se reproche quelque chose dans le processus qui est en train de se passer. Voilà ce qui est un problème. Qu'est-ce qu'il faire par rapport à la société civile?
Oui, en tant que
société civile, c'est un fourre-tout aujourd'hui. Je m'en veux pour exemple, celui qui a incarné pendant des années, soi-disant, la société civile, Bahati Lukwebo, vient de créer son propre parti et a été élu. Donc, parfois dans la société civile, on trouve des politiciens en herbe qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer comme politiciens. Donc, je reconnais, par exemple, que la société civile est incarnée par les églises. Avec en tête l'église catholique, par exemple, a joué un contrepoids réel par rapport au pouvoir politique. C'est ça qu'on attend de la société civile, d'être le porte-étendard de 100 voix.
Merci, professeur.
Que,
voilà.
À cette voix, c'est que le petit peuple ne sait pas exprimer parce que manipulé ou trompé par
merci.
Les politiciens.
Mmh.
Si la société civile n'arrive pas à se reprendre et jouer véritablement son rôle comme porte-parole de 100 voix, la démocratie ne pourra pas se construire dans notre pays
merci.
Et les politiciens pourront toujours nous tromper et nous présenter des solutions
fascistes
qui vont s'avérer après quelques années que ce n'était que des solutions de papotis.
Voilà.
Mais entre-temps, ces hommes, ces femmes seront déjà décédés à cause de leur comportement.
Merci beaucoup,
la
professeur
responsabilité
Philemon. Voilà. Merci beaucoup, professeur Philemon Mwamba. Nous avons retenu vraiment quelque chose de très important dans cette émission. C'est la démocratie dans un état d'esprit, que ce soit chez les hommes politiques, que ce soit dans la population. Nous allons nous retrouver demain, vendredi, pour un autre numéro des paroles aux auditeurs consacrées au sport. Le dimanche dernier, la RDC a emporté la manche aller de la rencontre portant pour les éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013 en battant la Guinée équatoriale 4-0. Comment consolider cette option et permettre à l'équipe nationale d'avoir des bons résultats à la phase finale de la prochaine CAN? C'est le rendez-vous de demain dans Paroles aux auditeurs. Merci à J.R. Lingemo, Titi Mfoutou et Dumazangou pour la production de cette émission supervisée par Ben Kabamba. Mais le programme continue sur Radio Capi. Au revoir.